Lettre 67. Monsieur Villard à Evelina. Berry Hill, le 28 septembre. Retiré des embarras du monde, insensible à ses plaisirs et à ses peines, je ne connais depuis longtemps d'autres satisfactions et d'autres soucis que ceux qui ont rapport à mon Evelina, à celle qui est la source de tout mon bonheur sur la terre. Il est donc singulier qu'une lettre, dans laquelle elle me dit être la plus heureuse des filles, qu'une telle lettre me mette dans des inquiétudes mortelles. Hélas, mon enfant, faut-il que le premier, que le plus précieux don du ciel, l'innocence, soit si sujette à s'aveugler sur les dangers qu'elle court, si sujette à être trompée, si peu capable de se défendre? Faut-il d'ailleurs que nous vivions dans un monde où elle est si peu connue, si peu respectée et si souvent victime de la trahison? Que n'êtes-vous ici? Je pourrais discuter en détail avec vous une manière trop délicate pour être traitée par écrit. Cependant, elle est aussi trop intéressante et la situation dans laquelle vous vous trouvez trop épineuse pour souffrir le moindre délai. Oui, mon Evelina, je ne crains pas de vous le dire, vous êtes dans une situation critique. Il y va du repos de votre vie et tout votre bonheur peut dépendre du moment présent. Jusqu'ici, je me suis abstenue de toucher un objet dont l'importance ne m'a cependant point échappé. J'entends l'état de votre cœur. Hélas, il n'était pas nécessaire que vous m'en parlassiez. J'y ai vu clair, malgré le silence que j'ai gardé. Je m'aperçois déjà depuis longtemps et avec regret de l'ascendant que Mylord Orville a pris sur vous. Vous serez étonné de m'entendre prononcer son nom. Votre surprise augmentera à chaque ligne que vous allez lire. J'en suis fâché, mais quoi qu'il m'en coûte de faire de la peine à ma chère Evelina, je ne suis plus le maître de l'épargner. Votre première entrevue avec Mylord Orville devait être décisive. Un homme tel que vous me le dépeignez ne pouvait manquer d'exciter votre admiration, et les faits en devenaient d'autant plus dangereux que le Lord me semble se douter aussi peu du pouvoir qu'il a sur vous, que vous ne vous doutez vous-même de votre faiblesse. De là cette sécurité sur laquelle vous vous fondez. De là cette complaisance avec laquelle vous disculpez Orville. À votre âge, ma chère, et avec votre vivacité, on néglige souvent d'être sur ses gardes, on ne réfléchit pas aux conséquences. Dès lors, l'imagination s'égare et la voix de la raison n'est plus assez forte pour la tenir en bride. C'est votre cas, mon Evelina. Observez, je vous prie, la marche rapide que vous avez suivie. Vous voyez Mylord Orville au bal, et il est le plus aimable des hommes. Vous le rencontrez une seconde fois, et il a toutes les vertus. Ce n'est pas que je prétende attaquer le mérite de Mylord Orville. Au contraire, à l'exception d'une seule circonstance qui reste encore à éclaircir, je crois que c'est avec justice que vous avez pris une idée favorable de son caractère. Seulement, je remarquerai que ce n'est ni le temps, ni une connaissance approfondie de ses bonnes qualités qui lui ont gagné votre estime. Votre imagination ne s'est pas donné la patience de le mettre à la moindre épreuve, et c'est dans les premiers moments de sa fougue qu'elle vous l'a représenté avec tant de perfection, tant d'excellentes qualités, qui ne pouvaient être découvertes qu'à la longue et dans une liaison intime. Vous vous êtes flatté en croyant que votre prévention était fondée sur une estime du mérite en général, sur un principe d'équité. Votre cœur s'était déjà rendu avant que vous soupçonnassiez qu'il fût en danger. J'ai été 100 fois sur le point de vous faire sentir les risques que vous couriez. Mais j'espérais toujours que cette même inexpérience qui a donné lieu à votre méprise y apporterait aussi du remède à l'aide du temps et de l'absence. J'ai différé de dissiper votre illusion parce que je m'attendais qu'elle contribuerait à vous tranquilliser et parce qu'en vous laissant ignorer la force et le danger de votre attachement, je prévenais peut-être ce découragement qui, aux yeux de la jeunesse, rend tout sacrifice impossible, pour peu qu'il paraisse difficile. Telles ont été jusqu'ici les espérances dont je me suis flatté. Mais aujourd'hui que vous avez revu Mylord Orville, que vous êtes lié avec lui plus que jamais, il ne m'est plus permis ni de me taire ni de feindre. Ouvrez donc les yeux, mon enfant, sur les dangers qui vous environnent. Cherchez à éviter les maux dont vous êtes menacé, mot qu'un cœur tel que le vôtre redoute certainement, puisqu'il lui prépare des remords cuisants et un repentir douloureux. Faites un effort pour retrouver votre repos, qui, je ne le vois que trop, hélas, n'est établi que sur la seule présence de Mylord Orville. Cet effort sera pénible, mais, croyez-en mon expérience, il est indispensable. Il faut quitter le Lord. Sa vue est funeste et sa société est le tombeau de votre tranquillité future. Il m'en coûte, ma chère Evelina, de vous annoncer cette résolution sévère, mais j'en entrevois trop la nécessité pour balancer un seul instant. Si nous pouvions faire fond sur la façon de penser de Mylord Orville, si nous pouvions croire qu'en rendant justice à vos vertus, il aurait assez de grandeur d'âme pour répondre aux sentiments qu'il vous a inspirés, alors je n'envierais point à mon Evelina la société d'un homme qu'elle estime et qu'elle admire. Mais nous ne vivons pas dans un siècle où il faille s'en rapporter aux apparences, et il vaut mieux prévenir une démarche imprudente que d'avoir ensuite à la regretter. Vous me dites que votre santé a beaucoup gagné. J'en suis fort aise, et vous aurez d'autant moins de difficultés à quitter Bristol. Y consentirez-vous ? Mon intention n'est cependant pas de brusquer votre départ. Quelques jours après que vous aurez reçu cette lettre, voilà tout ce que je demande. J'écrirai à Mme Selwyn et lui dirai combien je souhaite votre retour. Mme Clinton aura soin de vous en route. J'ai balancé longtemps avant que de me résoudre à exiger de vous une complaisance. Sans doute vous y souscrirez avec peine et j'aurais désiré de trouver le moyen de concilier à la fois votre bonheur et vos goûts. Mais la chose m'a paru impossible et j'ai dû prendre le parti le plus sûr. Le temps nous apprendra s'il est aussi le plus efficace. Osons l'espérer du moins. Les bonnes nouvelles que vous me donnez de M. McCartney m'ont fait plaisir. Adieu, mon cher enfant, que le ciel vous conserve et vous fortifie. Arthur Villard. Lettre 68. Evelina à M. Arthur Villard. Clifton, 23 septembre. J'ai encore passé 2 jours heureux depuis ma dernière, mais j'y ai vécu trop dissipé pour qu'ils puissent entrer dans le fil de mon journal. La journée d'aujourd'hui a été moins tranquille. Elle était fixée par l'importante décision de la gageure et toute la maison en a été en rumeur. C'était à 5 heures du soir que la course devait commencer. Mylord Merton, pour plus d'exactitude, vint dès le déjeuner et ne nous quitta plus. Il se donna beaucoup de mouvements pour engager les dames à s'intéresser au succès de son pari et, en vrai joueur, il exigea qu'elles se déclarassent avant que d'avoir vu les champions. Lady Louise seule goûta sa proposition. Madame Selwyn lui fit entendre qu'elle ne pariait jamais contre ceux à qui elle souhaite la victoire. Et Madame Beaumont ne voulut être d'aucun parti. Quant à moi, je fus passé sous silence selon la coutume de Mylord Merton. Rien de plus marqué que la grossièreté avec laquelle il se conduit envers moi sous les yeux de Lady Louise. Pour vous prouver qu'il n'y a que la prudence de cette dame qui le tient en respect, je vous ferai part d'une anecdote qui ne date pas plus loin que d'aujourd'hui. J'étais restée ce matin dans la salle à visite quand le hasard y a amené Mylord Merton. Il s'attendait à y trouver sa future et déjà il lui adressait la parole. Mais me voyant seule, il n'eut rien de plus pressé que de se tourner vers moi en me demandant où tout le monde était allé. Je lui répondis brièvement que je n'en savais rien. Alors, fermant la porte, il s'avança avec un air et une politesse bien différents de ses manières ordinaires et me dit « Que je suis aise, ma belle enfant, de pouvoir vous parler enfin sans témoin. J'en ai cherché l'occasion assez longtemps, mais on dirait qu'il y avait un complot contre moi. On ne m'a pas laissé une minute pour être à vous. » Il ajouta à l'audace de ce compliment celle de saisir ma main. Après avoir été en butte au mépris de cet homme, je devais naturellement être fort étonné de son propos. Je le regardais fixement sans daigner lui répondre. « Si vous n'étiez pas, continua-t-il, une petite cruelle, vous eussiez bien pu m'aider à trouver le moyen de vous voir plus tôt. Vous n'ignorez pas comment on m'épie ici. Lady Louise ne me quitte point des yeux et me donne un joli avant-goût des plaisirs du ménage. Mais heureusement, ce ne sera pas long. » J'étais indignée et cherchais à rompre cet entretien au plus vite. Madame Beaumont, qui est survenue, m'a tirée d'embarras et Mylord Merton, sans se décontenancer, s'est adressé à elle en lui criant « Bonjour, madame, où est Lady Louise ? Vous voyez que je ne puis pas vivre un moment sans elle. » Il n'est guère possible de pousser les fronteries plus loin. Monsieur Coverley est venu dîner ici, et vers 5 heures, Monsieur Lovell et quelques autres visites sont arrivées. La place marquée pour la course dans le jardin de Madame Beaumont était une allée de gravier de 20 verges de longueur. Les spectateurs étant assemblés, les deux vieilles, qu'on avait choisies pour champions, parurent dans l'arène. Leur grand âge, le contraste ridicule de leur faiblesse et de l'exercice violent auquel on les destinait, ne m'inspiraient que de la pitié. Mais ce sentiment n'a point prévalu chez le reste de la compagnie, qui assaillit ces pauvres femmes d'un grand éclat de rire. Le seul Mylord d'Orville s'est distingué par un sérieux qui ne l'a pas quitté pendant tout le spectacle. Il était aisé de voir combien il était mécontent de la conduite extravagante de son futur beau-frère. Rien de plus absurde que l'agitation des deux parieurs. Il y eut encore plusieurs gageures entre les spectateurs. De tous côtés, on se demandait « Pour qui êtes-vous? Pour quelle partie tenez-vous ?» Mylord Merton et M. Coverley étaient excessivement gais et bruyants grâce aux rasades qu'ils avaient bues à leur bon succès. Ils firent entrer les deux vieilles à grands cris dans la lice et les encouragèrent par leurs promesses à s'évertuer. Elles partirent au signal donné, mais s'étant heurtées l'une contre l'autre, elles se renversèrent toutes deux. Leurs patrons furent prompts à les relever et, après leur avoir donné quelques rafraîchissements, ils les exhortèrent à continuer leur course. À quelques pas de là, celle des femmes qui appartenaient à M. Coverley fit une chute terrible. J'étais sur le point d'aller à son secours, mais Mylord Merton me retint. M. Coverley, pour qui cet accident semblait être décisif, employa tous ses efforts pour remettre la vieille sur pied, mais elle était hors d'état de marcher davantage et, après quelques contestations, entremêlées des jurements de M. Coverley, la palme fut adjugée d'une voix unanime à Mylord Merton. Nous rentrâmes tous pour prendre le thé, et la soirée étant des plus belles, on proposa une promenade au jardin. Mylord Merton était plus tapageur que jamais, et Lady Louise, orgueilleuse de la victoire que son amant venait de remporter. Par contre, M. Coverley eut de la peine à cacher son chagrin. Mylord Orville était toujours pensif et se promenait seul. Je m'attendais par conséquent à rester abandonné à moi-même, mais je me trompais. Mylord Merton, étourdi par ses succès et par les rasades qu'il avait avalées, s'oublia au point de recommencer ses importunités, malgré la présence de cette même Lady Louise, qui, jusqu'ici, lui avait fait négliger envers moi les règles de la simple politesse. Il s'attacha à moi seul, me tint toutes sortes de propos galants et voulut de force s'emparer de mon bras, que je lui retirai en lui donnant des marques non équivoques de mon mécontentement. Mylord Orville nous observait d'un air sérieux et Lady Louise nous lançait des regards de colère et de mépris. Je ne pus me résoudre à demeurer exposé aux insolences de Mylord Merton et, pour lui échapper, je prétextai d'être fatigué et je repris le chemin de la maison. Il me suivit de près et, en me retenant par la main, il me dit qu'il était le maître de cette journée et qu'il ne souffrirait jamais que je le quittasse. « Il le faudra bien, cependant !» lui répondis-je. « Vous êtes, reprit-il, une charmante petite créature, et jamais je ne vous vis si belle. » Madame Selwyn jugea à propos de se mêler de la partie et dit au lord « Plus mademoiselle est belle, plus vous perdez par le contraste. Aussi vous ferez bien de vous tenir à l'écart. » Monsieur Coverley, « en effet, il n'est pas juste, mylord, que dans une même journée, vous ayez à votre disposition l'élite des vieilles femmes et la fleur des jeunes demoiselles. » Monsieur Lovell, « la fleur des jeunes demoiselles, voilà une façon de s'exprimer qui ne me paraît pas des plus heureuses et qui, en tout cas, n'est pas un compliment pour Lady Louise. Je vous félicite si elle vous passe une faute qu'on pourrait bien appeler un solécisme en politesse. » Madame Selwyn, « et comment croirez-vous, monsieur, que les autres dames appelleront la bévue que vous venez de commettre vous-même dans ce moment ?» Monsieur Lovell esquiva la réponse. Monsieur Coverley, « Lady Louise, c'est le fond qu'elle doit faire sur mon attachement. Mais est-ce ma faute si je suis malheureuse en épigramme ? Je ne crois pas avoir trouvé jamais une bonne pointe. » J'étais toujours à me débattre contre Mylord Merton et je demandais sérieusement qu'on me délivrât de lui. Madame Selwyn lui répéta, avec ses plaisanteries ordinaires, de se retirer sur le champ. Madame Beaumont ne fut pas moins scandalisée de ses mauvaises manières et lui conseilla de songer à faire sa paix avec sa belle et de cesser de m'importuner. Lady Louise déclara que sa paix était toute faite puisqu'elle était fort aise d'être quitte d'un importun. Elle ajouta qu'elle renonçait à lui et pour le punir, elle prit le bras de son frère et le pria de la conduire. « Que n'ai-je aussi un frère, m'écriai-je, qui puisse me venger des traitements que je souffre ?» Cette exclamation était involontaire et l'effet de la peur que m'inspirait l'état honteux où je voyais Somerton. Mylord Orville, qui y fit attention, quitta sa sœur pour me demander si je voulais lui faire l'honneur de l'adopter pour frère, et sans attendre ma réponse, il renvoya Mylord Merton. Et en me présentant à Lady Louise, il ajouta qu'il aurait soin de ses deux sœurs. Il nous donna le bras à l'une et à l'autre et nous ramena à la maison. Mylord Merton était trop peu sûr de ses jambes pour s'opposer à notre départ. Dès que nous fûmes rentrés, je remerciai Orville par une révérence. Lady Louise, choquée des égards que m'avait montrés son frère et piquée d'ailleurs des procédés de Mylord Merton, se mordait les lèvres en silence et se promenait fièrement dans la chambre d'un air excessivement mécontent. Mylord Orville lui proposa de passer dans la salle à visite. « Non, lui répondit-elle, je vais vous laisser avec votre prétendue sœur. » Et en même temps, elle nous quitta pour monter l'escalier. J'étais confondu de la grossièreté hautaine de cette sortie. Orville lui-même en fut frappé, mais il eut assez de présence d'esprit pour donner un autre tour à la conversation. « Ai-je bien fait, me dit-il, de vous offrir tantôt mes services, ou dois-je m'accuser de ne pas m'être acquitté plus tôt de ce devoir ?»« My lord, m'écriai-je avec une émotion dont je ne fus pas la maîtresse, c'est de vous seul que j'ai des politesses à attendre dans cette maison. Tout le monde m'y traite avec hauteur, sinon avec mépris. » J'étais fâché de n'avoir pas mis plus de modération dans mes plaintes qui, dans ce moment-ci, semblaient porter directement contre Lady Louise. Ce fut aussi dans ce sens que Mylord Orville les prit. « Ciel, s'écria-t-il, est-il possible de refuser à votre douceur et à votre mérite toute l'estime, toute l'admiration qui leur sont dues ? Je ne puis, je n'ose exprimer jusqu'où va mon indignation. « Je suis au désespoir, Mylord, d'en être la cause, mais j'ai besoin de protection et jusqu'ici j'ai été peu accoutumé à souffrir des humiliations. » « Ma chère Miss Amdil, permettez que je sois votre amie. Agréez-moi pour frère et en cette qualité que j'ai droit à vous offrir mes services. Dans toutes les occasions, je serai fière de vous donner des preuves de mon attention et de mon respect. » La compagnie rentra avant que j'eusse le temps de répondre. Comme je n'avais guère envie de revoir Mylord Merton avant qu'il eût dormi, je me préparai à me retirer dans ma chambre. Orville, qui devina mon projet, me demanda si je partais. Je lui dis que je m'imaginais que c'est ce que j'avais de mieux à faire. « Si je dois vous parler en frère, me répliqua-t-il, je crois que vous avez raison, mais voyez du moins que vous pouvez prendre confiance en moi, puisque je vous conseille contre mes propres intérêts. » « Je suis sorti ensuite pour vous écrire, monsieur. J'aurais à me plaindre infiniment de la grossièreté de Somerton si elle n'avait servi à me confirmer l'estime que j'ai pour Mylord Orville. » Lettre 69. Suite de la lettre d'Evelina. 30 septembre. J'ai à vous annoncer, monsieur, un étrange événement qui ouvre un vaste champ à nos conjectures. Nous fûmes hier soir à l'Assemblée. Mylord Orville avait pris des billets pour tous ceux de notre société. Il me fit l'honneur de danser avec moi et on en fut surpris. Chaque jour est marqué d'une nouvelle preuve de sa politesse. Le Lord saisit actuellement chaque occasion pour m'appeler son ami et sa sœur. Mylord Merton avait offert à Lady Louise un billet qui fut refusé avec dédain. Elle est toujours fort en colère contre son amant et il n'a pu obtenir l'honneur d'une seule danse. Elle n'a pas quitté sa chaise de la soirée. Elle n'a même pas daigné parler. La conduite de cette dame à mon égard est encore la même, également froide et impérieuse. Le mépris est peint dans ses yeux. Sans Mylord Orville, mon séjour à Clifton serait des plus tristes. M. Coverley, M. Lovell et Mylord Merton vinrent nous joindre dans la salle du bal. Le dernier avait l'air d'un homme qui fait pénitence, et il fut très assidu auprès de Lady Louise, mettant tout en usage pour l'apaiser, mais sans pouvoir y réussir. Mylord Orville ouvrit le bal. Il dansa le menuet avec une jeune demoiselle qui s'attira d'autant plus d'attention qu'elle paraissait ici pour la première fois. Elle est jolie, d'une physionomie douce et intéressante. Lady Louise fut curieuse de savoir qui elle était. M. Lovell lui rapporta qu'elle s'appelait Miss Belmont et qu'elle avait de grands biens, qu'elle se trouvait aux eaux depuis hier. Je fus frappée du nom que j'entendis prononcer, mais je le fus bien davantage quand j'appris que cette étrangère était fille et héritière unique de Sir John Belmont. C'est du moins ce que M. Lovell assura positivement à Mme Beaumont. « Vous jugez bien, monsieur, que cette découverte devait être pour moi un coup de foudre. Mme Selwyn, qui s'aperçut de mon trouble, vint d'abord vers moi et me dit de me tranquilliser, qu'elle tâcherait d'approfondir ce mystère. Jusqu'ici, je n'ai pas su que Mme Selwyn était instruite de mes affaires. » Elle m'a avoué aujourd'hui qu'elle avait très bien connu ma mère et qu'elle est au fait de toutes nos disgrâces. Elle a beaucoup questionné M. Lovell sur la jeune étrangère et, selon les informations qu'il nous en a données, cette demoiselle arrive tout récemment d'un voyage qu'elle a fait avec Sir John Belmont, qui est également de retour à Londres. Elle est logée chez une tante nommée Mme Patterson et on dit qu'elle est à la veille de faire un héritage considérable. Je ne saurais vous peindre, monsieur, la sensation que ce récit produisit sur moi. Que veut dire tout ceci? Vous a-t-on jamais parlé d'un second mariage de Sir Belmont? Dois-je croire qu'il a adopté une étrangère, tandis qu'il rejette son enfant légitime? Je ne sais que penser, et je me perds dans un abîme de réflexions plus effrayantes les unes que les autres. Madame Selwyn a passé plus d'une heure dans ma chambre pour délibérer avec moi. Elle me conseille de me rendre incessamment à Londres, d'y aller trouver mon père et de lui demander une explication. J'ai trop de ressemblances, dit-elle, avec ma mère, pour que Sir Belmont puisse balancer de me reconnaître dès qu'il m'aura vue. En attendant, je ne déciderai rien. Je ne prétends agir que d'après vos directions. Je ne vous parle point de la soirée d'hier. Je ne suis occupée aujourd'hui que d'un seul objet, et il m'intéresse trop pour que je puisse penser à autre chose. J'ai prié Mme Selwyn de garder un secret absolu sur tout ceci. Elle me l'a promis, et je la crois trop raisonnable pour ne pas en sentir toute l'importance. Mylord Orville doit s'être aperçu de mon trouble, mais je ne m'aviserai point de lui en dire la raison. Heureusement qu'il n'était pas avec nous lorsque M. Lovell nous donna ces informations. Madame Selwyn me dit que si vous approuvez le plan de mon voyage à Londres, elle consente à m'y accompagner. J'aurais voulu qu'elle m'eût épargné cette offre. Je préférais mille fois d'entreprendre cette course sous les auspices de Madame Mirvan. Adieu, mon très cher monsieur. Je suis sûre que vous ne tarderez pas à m'écrire. J'attends vos lettres avec la plus vive impatience. Lettre 70. Continuation de la lettre d'Evelina. 1er octobre. Préparez-vous, mon cher monsieur, à entendre le récit d'un nouvel événement qui va vous jeter dans la plus grande surprise. Hier matin, après que je vous eus dépêché fort à la hâte ma lettre, on vint me proposer une promenade aux eaux. Madame Selwyn et Mylord Orville étaient seuls de la partie. Celui-ci me donna le bras en chemin. Sa conversation agréable dissipa un peu mes inquiétudes et me rendit insensiblement le calme. Je vis M. McCartney à la fontaine. Je le saluai deux fois avant qu'il me parlât. Dès qu'il s'approcha de nous, je lui fis mes excuses d'avoir manqué au dernier rendez-vous. Je lui devais cette honnêteté, mais je me serais passé d'avoir Mylord Orville pour témoin. Il nous mesurait des yeux et semblait redoubler d'attention à chaque parole que je prononçais. En attendant, j'étais trop convaincue de mes torts envers M. McCartney pour ne pas chercher à les réparer. Quelques mots de ma part suffirent pour nous raccommoder, et il parut même reconnaissant de la manière dont je me justifiais. Il me pria de consentir à le voir demain, mais je ne fus plus assez imprudente pour m'exposer à de nouveaux embarras. Je lui répondis donc avec franchise que pour le présent, il ne dépendait pas de moi de recevoir ses visites. Et afin qu'il ne s'offensât point de mon refus, je lui en alléguai la raison. Pendant cette conversation, Mylord Orville m'avait observé avec une émotion qui se peignait vivement sur sa physionomie. J'aurais désiré lui parler, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Il me prévint en me demandant avec un sourire forcé si M. Macarney ne se plaignait point de ce que je lui avais manqué de parole l'autre jour. « Non, en vérité, » répondis-je. « Et comment avez-vous fait pour vous réconcilier? Vous pouvez bien me le confier, car en qualité de votre frère, je suis autorisé à m'informer de ce qui vous regarde. » « À la bonne heure, mylord, mais il s'agissait d'affaires qui n'en valussent pas la peine. »« N'importe, je soutiendrai toujours mes droits. Je les réclame même pour excuser la question que je vais vous faire. Quand comptez-vous revoir M. Macarney ?»« Je l'ignore, mylord. » »« Pensez-y bien, du moins. Je ne souffrirai pas que ma sœur ait des entrevues secrètes. » « De grâce, mylord, ne vous servez point de cette expression. Elle me fait de la peine. » « C'est ce que je ne cherche point. Mais vous ne sauriez croire, madame, avec quelle chaleur je m'intéresse à tout ce qui vous concerne et même à toutes vos actions. » Ce propos, le plus singulier que Mylord Orville m'ait encore retenu, termina pour cette fois notre conversation. Je n'eus pas le courage de la poursuivre. M. Macarney me pressa de nouveau d'accepter le paiement de ce que je lui ai avancé. Pendant qu'il me parlait, la jeune demoiselle, qui apparut hier à l'assemblée, vint à la fontaine avec une société nombreuse. À sa vue, M. Macarney pâlit, la voix lui manqua, et il ne savait plus ce qu'il faisait. Moi-même, j'étais troublé par une foule d'idées confuses qui se présentèrent à mon esprit. D'où lui vient, pensais-je, une agitation aussi extraordinaire? Nous nous retirâmes bientôt. Je fis mes adieux à M. Macarney, mais il était trop enfoncé dans ses rêveries pour s'en apercevoir. Avant que de retourner à Clifton, nous accompagnâmes Mme Selwyn dans une boutique de libraire où elle avait des emplettes à faire. Pendant qu'elle s'amusait à parcourir quelques nouveautés, Mylord Orville me demanda encore à quand j'avais remis M. Macarney. « J'ignore, lui répondis-je, si je le reverrai, mais il est certain que je donnerai tout au monde pour avoir un moment d'entretien avec lui. » Je prononçai ces paroles avec une sincérité ingénue et sans faire attention à la force des termes dont je me servais. « Tout au monde ?» reprit Mylord Orville. « Et c'est à moi que vous le dites ?»« Oui, mylord, et je ne craindrai pas de le répéter à quiconque voudra l'entendre. »« Pardon, madame, je n'ai plus rien à répliquer. » »« Ne me jugez pas avec trop de rigueur, mylord. » Je ne pèse pas toujours mes paroles, et celles qui viennent de m'échapper vous surprendraient moins si vous pouviez savoir dans quelle incertitude pénible je me trouve à présent. Et une entrevue avec M. Macarney pourrait vous tranquilliser? Deux mots me suffiraient. Que ne puis-je être digne d'en connaître l'importance? Oh, mylord, s'il ne tenait qu'à cette difficulté, elle serait bientôt levée. Soyez sûr que, s'il m'était permis de parler, je serai fière de prévenir toutes vos questions, mais il ne m'appartient point de révéler les secrets de M. Macarney. Vous êtes trop juste pour l'exiger. J'avoue que je ne sais pas trop ce que je dois penser de tout ceci. Au milieu de cet air mystérieux, il règne une certaine franchise qui me rassure et qui me fait espérer que vous n'avez rien à vous reprocher. Après un moment de silence, il ajouta « Vous dites donc que cette entrevue est essentielle à votre repos ?» « Je ne dis pas cela, mylord, et je la souhaite uniquement parce que des raisons importantes la rendent nécessaire. »« Eh bien, vous verrez, M. Macarney, je vous en procurerai moi-même la facilité. Misanville, j'en suis convaincue, ne saurait former que des souhaits légitimes. Je n'insisterai pas davantage, je m'en fierai à la pureté de ses intentions. Sans être informé de ses motifs, je lui obéirai aveuglément et je m'appliquerai à la servir au gré de ses désirs. » Puis il alla joindre Mme Selwyn dans la boutique. Nos remerciements et ma reconnaissance le suivirent. Nous ne tardâmes pas à reprendre le chemin du logis. Dès que le dîner fut desservi, Mylord Orville sortit et ne revint que vers l'heure du souper. C'est la plus longue absence qu'il ait faite depuis que je suis à Clifton. Vous ne sauriez croire, mon cher monsieur, combien il me manquait et combien je m'aperçus alors que je lui dois à lui seul le bonheur dont je jouis dans la maison de Madame Beaumont. Comme j'ai la coutume de descendre toujours la dernière lorsqu'on va se mettre à table, Mylord Orville attendit que je fusse seul pour me demander si demain je resterais chez moi. Je lui répondis que je le croyais. « Voulez-vous dans ce cas que je vous amène une visite ?»« Vous, Mylord ?»« Oui, j'ai fait la connaissance de M. McCartney et il m'a promis de venir me voir demain sur les 3 heures. » « Quel homme que ce Mylord Orville! Ne convenez-vous pas, monsieur, qu'il est la complaisance même ?»« Nous avons eu du monde ce matin, mais le lord a choisi l'heure où les dames sont occupées à la toilette et où la salle des visites est vide ordinairement. » Madame Beaumont n'était cependant pas montée encore quand on vint annoncer M. McCartney. Mylord Orville pria qu'on le fît entrer et il s'excusa envers cette dame de la liberté avec laquelle il agissait. M. McCartney fut introduit. Il sentit, comme moi, avec quelque confusion, à qui sa visite s'adressait. Mylord Orville le reçut cependant comme une personne de sa connaissance et il conversa avec lui sur ce pied tant que Madame Beaumont fut présente et même un moment après qu'elle se fut retirée. Cette délicatesse m'épargna l'embarras que j'aurais éprouvé s'il nous avait laissé immédiatement. Je fis semblant d'être occupé d'une lecture et Mylord Orville remit en sortant un livre à M. McCartney en le priant de le parcourir. Il ajouta qu'il était obligé de répondre à une lettre qui ne souffrait point de délai et il promit d'être incessamment de retour. Il n'eut pas plus tôt fermé la porte que M. McCartney renouvela ses instances pour me faire accepter l'argent que je lui avais avancé. Des objets plus intéressants me firent passer cette offre entièrement sous silence. « De grâce, lui demandai-je, connaissez-vous la jeune demoiselle que nous avons vue hier matin à la fontaine ?»« Si je la connais, que trop, hélas ! Et pourquoi, madame, me faites-vous cette question ?»« Commencez, je vous supplie, monsieur, par satisfaire ma curiosité. Qui est-elle ?» Je m'étais proposé d'en garder le secret, mais je n'ai rien à refuser à Miss Anville. Cette dame est la fille de John Belmont, la fille de mon père. « Juste ciel ! » m'écriai-je en m'appuyant sur son bras. « Vous êtes donc mon frère ? » aurais-je voulu ajouter. Mais la voix me manqua, mon émotion me fit verser des larmes. « Madame, que veut dire ceci ? D'où vient ce trouble extraordinaire ?» Je lui tendis la main pour toute réponse. Il parut extrêmement surpris et parla avec reconnaissance des bontés que j'avais pour lui. « Épargnez-vous ! » m'écriai-je en essuyant mes larmes. « Épargnez-vous cette erreur ! Vous avez des droits à tout ce que je puis faire pour vous. Notre situation a tant de rapports. » Ici, nous fûmes interrompus par Madame Selwyn, et M. McCartney, ne voyant plus d'apparence à renouer notre conversation, crut devoir prendre congé. Je suis sûre qu'il partit à regret et sans contredit dans une incertitude cruelle. Madame Selwyn réussit par ses questions à m'arracher l'aveu de ce qui venait de se passer. Cette femme est si pénétrante qu'il n'y a pas moyen de lui échapper. « Que pensez-vous, monsieur, de cet événement ? Aurais-je pu m'imaginer que les visites que je faisais avec tant de répugnance chez les Branton m'approcheraient d'un frère ? Je ne regretterai plus mon séjour ennuyeux à Londres puisqu'il m'a conduite à une découverte qui peut devenir pour moi une source de satisfaction. » Dans ce moment, monsieur, je reçois votre lettre. Elle m'a déchiré le cœur. Oui, en effet, le charme est rompu. Je conviens que j'ai été dans l'erreur, que je me suis honteusement aveuglée. Depuis longtemps déjà, l'état de mon cœur m'était une énigme. J'ai craint de l'approfondir. Et dans le moment où je commençais à croire ma sûreté solidement établie, où j'espérais être à l'abri de toute crainte, où je me flattais qu'il me serait permis de sentir et d'avouer librement l'estime que m'inspire Mylord Orville, dans ce même moment, j'ouvre les yeux et je reconnais mon tort. Sa vue m'est funeste, sa société le tombeau de ma tranquillité future. Oh, Mylord Orville, aurais-je cru qu'une amitié si chère à mon cœur, si consolante dans mes disgrâces, qu'une amitié qui, à tous égards, m'honorait tant, ne servirait qu'à empoisonner mon bonheur futur. Faut-il que ma reconnaissance, que vous avez si justement méritée, devienne fatale à mon repos ? Oui, monsieur, je le quitterai. Que ne puis-je partir sur l'heure sans le revoir, sans m'exposer aux nouvelles secousses dont mon cœur est menacé ? Oh, my lord Orville, vous vous doutez bien peu des maux dont vous êtes l'auteur. Vous ne soupçonnez point que dans l'instant où vos attentions me donnèrent du relief, j'en étais plus à plaindre. Que dans l'instant même où j'étais fière des marques distinguées de votre amitié, je devais vous redouter comme mon ennemi. Vous vous êtes fié, monsieur, sur mon inexpérience. Et moi, hélas, je comptais sur vos directions. Souvent, quand je me doutais de la faiblesse de mon cœur, l'idée que vous ne vous en aperceviez pas me rassurait, me rendait le courage et me confirmait dans mon erreur. Je n'en suis pas moins sensible aux motifs qui vous ont engagé à garder le silence. Hélas, pourquoi vous ai-je quitté ? Pourquoi ai-je été chercher des dangers si peu proportionnés à mes forces ? Mais j'abandonnerai ce séjour, j'abandonnerai My Lord Orville, peut-être pour toujours. N'importe, vos conseils, vos bontés pourront m'apprendre à retrouver le repos et le calme que j'ai perdu par mon imprudence. Je me remets à vous seul et c'est de vous que j'attends les espérances que je puis former encore. Plus je réfléchis à cette séparation, plus elle me paraît douloureuse. L'amitié de My Lord Orville, sa politesse, la douceur de son commerce, l'intérêt qu'il prend à mes affaires, son attention à m'obliger, il faudra renoncer à tout, abandonner tout. Il ne saura pas que je le quitte. Je n'ose pas m'exposer à prendre congé de lui. Je m'enfuirai sans le voir. Et, fidèle à vos conseils, je veux éviter sa société, sa vue même. Demain matin, je me mets en route pour Berry Hill. Madame Selvin et Madame Beaumont seront les seules personnes que j'informerai de mon départ. Aujourd'hui, je reste enfermée dans ma chambre. C'est à mon obéissance à expier mes erreurs. Pourrez-vous, mon très cher et très honoré monsieur, revoir votre Evelina sans lui faire des reproches, sans être fâché contre elle ? Hélas, vous attendiez sans doute de meilleurs fruits de votre éducation. Mais soyez sûr du moins que votre élève reconnaît ses torts et qu'elle en rougit. Elle tremble de reparaître sous les yeux de son bienfaiteur, et cependant, elle ne connaît d'autre soutien que vous. Elle compte encore sur vous. Mes fautes ne proviennent que de mon imprudence, et tant que le cœur n'y a point de part, je puis encore espérer mon pardon. Lettre 71. Continuation de la lettre d'Evelina. Clifton Hill, le 1er octobre. Je n'ai le temps, mon cher monsieur, que de vous dire deux mots et de rétracter la promesse renfermée dans ma lettre de ce matin. Mon départ a été différé. Madame Selwyn, à qui j'en ai fait l'ouverture, s'est hautement récriée contre ce projet et elle m'a déclaré qu'il serait trop ridicule de quitter Clifton Hill avant que d'avoir tiré au clair la nouvelle de l'arrivée de Sir John Belmont. Elle prétend que je dois attendre vos instructions ultérieures. J'avoue que l'argument de Madame Selwyn m'a paru sans réplique. Je me suis rendue à ses instances et je me flatte que vous ne me désapprouverez point, car c'est à regret que je consens à ce délai. En attendant, je verrai peu My Lord Orville. Je fuirai sa conversation et sa vue. Je ne descendrai plus avant le déjeuner, je renoncerai à mes promenades du jardin et à table, je choisirai ma place à côté de Madame Selwyn. Je ferai tout ce qui dépendra de moi pour me conduire avec prudence et pour vous épargner de nouveaux chagrins. Adieu, mon très cher monsieur. Vos ordres décideront de mon départ. Lettre 72. Continuation de la lettre précédente. 2 octobre. Je m'étais proposé de rester dans ma chambre et de ne plus revoir My Lord Orville. Mais puisqu'on a décidé que mon séjour à Clifton serait encore prolongé, il a fallu changer de plan. Je n'ai donc pu m'empêcher de reprendre mon train de vie précédent et de reparaître ce matin en société. J'étais préparée et je suis descendue dans la ferme résolution d'éviter le Lord autant qu'il serait possible. J'ai assisté au déjeuner, mais j'étais tout occupée de votre lettre et la présence d'Orville me confondait autant que s'il avait été instruit de ce que vous m'avez écrit. Madame Beaumont me fit compliment sur mon rétablissement car j'avais prétexté une indisposition. Lady Louise ne me dit pas un mot, mais Mylord Orville, qui se doutait bien peu des raisons de mon absence, s'informa de ma santé avec cette politesse qui le distingue toujours. Je lui répondis en peu de mots, et pour la première fois, je cherchais une place loin de lui. Je remarquai que ma réserve le surprit beaucoup, et qu'il fit ce qu'il put pour l'écarter. Mais je tins ferme, et au lieu de m'amuser à la lecture ou à la promenade après le déjeuner, je n'eus rien de plus pressé que de remonter dans ma chambre. Madame Selwyn vint m'y annoncer que Mylord Orville lui avait proposé de me faire prendre l'air et qu'il s'offrait de nous conduire en phaéton. Le ton malin dont elle me rendit ce message me fit rougir. Elle ajouta qu'un tour de promenade dans l'équipage de Mylord Orville ne pouvait manquer de me faire du bien. Il n'y a pas moyen d'échapper à la pénétration de cette femme. Elle m'a déjà raillé souvent sur les assiduités du Lord et sur le plaisir avec lequel, hélas, je les reçois. Je déclinai totalement sa proposition. Votre complaisance, reprit-elle, m'est cependant nécessaire, car, à dire vrai, j'ai des affaires qui demandent ma présence aux eaux. Je vous proposerai bien de m'y accompagner, mais, puisque Mylord Orville est refusé, je n'ai pas la présomption de croire que je serai plus heureuse. Vous vous trompez, madame. S'il s'agit de vous y suivre seule, je suis à vos ordres. Quelle étrange coquetterie! En vérité, elle doit être innée à notre sexe, car ce n'est pas à Berry Hill que vous pouvez la voir étudier. Je m'habillai sans lui répondre. Je suppose pourtant, continua-t-elle, que Mylord Orville sera des nôtres. Dans ce cas, madame, vous aurez un compagnon et je resterai. Irai-je donc lui dire que vous ne voulez pas de lui ? Gardez-vous-en bien, madame, ou bien souffrez que je ne sorte pas avec vous. Je ne vous comprends pas aujourd'hui, ma chère. On dirait que vous avez été prendre leçon chez Lady Louise. Madame Selwyn me quitta et revint aussitôt pour me dire qu'elle avait informé Mylord Orville qu'il ne me plaisait point d'accepter son phaéton et que, pour varier, je préférais une promenade tête à tête avec elle. J'étais trop piqué de cette saillie pour la relever et je pris le parti de descendre. Mylord Orville m'attendait au bas de l'escalier. Il s'informa d'un air inquiet de ma santé et se mit en devoir de me donner la main. Je me détournai sans affectation et j'entrai dans la salle. J'y trouvai Madame Beaumont et Lady Louise qui s'entretenaient avec Mylord Merton. Ils se sont raccommodés et le Lord est rentré en faveur. Je me plaçai, comme de coutume, dans une des croisées. Orville ne tarda pas à me joindre. « D'où vient, me dit-il, que Miss Anville est si sérieuse ?»« Non, pas sérieuse, Mylord, je dirais plutôt hébétée. » Et en même temps, j'ouvris un livre qui se trouvait là sous ma main. « Irez-vous ce soir à l'assemblée ?»« Non, Mylord, assurément pas. » »« Je n'en serai donc pas non plus. » J'ai eu trop de plaisir à la dernière pour être tentée d'en perdre le souvenir. Madame Selwyn étant de retour, toute la société fit partie de passer la soirée à l'assemblée. Il n'y a que moi qui ne fus point invitée. Mylord Orville refusa sous prétexte d'occupation. Madame Selwyn était prête à s'en aller avec moi, mais elle ne put s'empêcher de me jouer une pièce de sa façon. « Mylord Orville, s'écria-t-elle, a-t-il obtenu la permission de nous suivre ?» Celui-ci lui répondit qu'il n'avait pas eu la vanité de la demander, et nous sortîmes enfin. Madame Selwyn me tourmenta en chemin d'une manière impitoyable. Elle me dit que, puisque j'avais refusé d'admettre parmi nous un homme de si bonne société, j'étais sûre apparemment de fournir seule la conversation, qu'ainsi elle espérait que je m'évertuerais. Je fis de mon mieux pour être gaie, mais les plaisanteries perpétuelles dont je fus accablée me firent regretter plus d'une fois de m'être engagée dans cette promenade. Nous nous rendîmes droit à la fontaine et nous entrâmes dans l'une des salles qui regorgeait de monde. Au moment où j'y mis les pieds, j'entendis s'élever un murmure confus. « La voilà !» se disait-on. Et à ma grande confusion, j'observai que tous les yeux étaient fixés sur moi. J'enfonçai mon chapeau pour être moins remarqué, mais voyant que je continuais à demeurer l'objet de la curiosité générale, je suppliai Madame Selwyn de hâter notre retour. Elle avait lié conversation avec un cavalier de sa connaissance et me répondit que si j'étais lasse de l'attendre, il ne tenait qu'à moi d'accompagner les demoiselles Watkins qui sortaient pour faire des emplettes dans une boutique de mode. Je connais ces demoiselles Watkins pour les avoir vues quelquefois chez Madame Beaumont. J'acceptai la proposition et j'échappai ainsi à la foule, mais je ne gagnais pas beaucoup au change. Nous n'avions pas fait 10 pas que nous nous vîmes poursuivis par une bande de jeunes gens qui s'annonçaient assez incivilement. Ils vinrent nous regarder en face, puis se retirèrent et se permirent entre eux des réflexions aussi absurdes qu'indiscrètes. « Oui, c'est elle !» s'écria l'un. « Remarquez la rougeur sur le front !»« Sans doute, reprit un second, ce sont bien là ses yeux baissés !»« La beauté siégeant sur son visage !» ajouta un troisième. « Et son esprit ?» Ah, c'est là le grand nœud. Je parie qu'elle ne dira pas 2 mots. Pure timidité, mon ami. Ne savez-vous pas son air timide ? Tels furent les propos que nous essuyâmes en continuant tranquillement notre chemin et en nous hâtant d'échapper aux traits de ces observateurs impertinents. La pluie nous surprit et ces messieurs s'empressèrent de nous offrir leurs bras. Deux surtout se distinguèrent par leurs importunités envers moi. Et dans un mouvement que je fis pour les éviter, j'eus la maladresse de me laisser tomber. Ils aidèrent à me relever, et pendant qu'ils étaient occupés à me prodiguer leurs services, je vis devant moi Sir Clement Willoughby. « Ciel ! S'écria-t-il avec sa vivacité ordinaire. « Missonville ! J'espère, madame, que vous ne vous êtes point fait mal. » Je lui répondis que non. Les inconnus qui nous avaient suivis jusqu'ici se retirèrent pour laisser le champ libre à Sir Clément. Il me supplia de lui donner le bras et sur mon refus, il s'informa qui étaient les cavaliers qui venaient de me quitter. Je lui dis que je ne les avais jamais vus. Et cependant, ils ont obtenu l'avantage de vous rendre leurs soins. Oh, Missonville, est-ce donc pour moi seul que vous êtes cruel ? Rassurez-vous, cet avantage, si c'en est un, n'était qu'usurpé. Que ne suis-je donc venu plus tôt ? J'arrive à Bristol ce matin même et j'ai à peine eu le temps de m'informer de votre demeure. Saviez-vous donc que j'étais aux eaux ? Ah, comme si j'étais le maître de vivre sans avoir de vos nouvelles. Donnez-moi votre indifférence et je serai plus tranquille et on ne me verra plus me repaître de vaines espérances et courir de ville en ville pour n'y trouver que le désespoir. Hélas, puissiez-vous avoir une idée de ce que je souffre. Mais vos froideurs, la sérénité constante de votre âme, vous rendent incapable de sentir mon trouble. La sérénité constante de mon âme. Oh, que ne dit-il vrai ? Mais, ajouta-t-il, quand même je n'eusse été conduite ici que par hasard, je n'aurais pas tardé à vous découvrir, la voie publique m'aurait appris que vous y êtes. Et qu'ai-je de commun, je vous prie, avec la voie publique ? Votre nom, madame, est le premier que j'ai entendu prononcer à Bristol, et encore cette distinction était-elle superflue ? Le portrait qu'on a fait de vous ne peut convenir qu'à vous seul. Je protestais que je ne comprenais rien à ce langage. Et en attendant, nous entrâmes dans une boutique où les demoiselles Watkins examinèrent quelques marchandises. Sir Clément reprit sa conversation. « Je ne saurais vous exprimer ma joie de vous trouver en si bonne santé. On m'avait fait craindre que vous ne fussiez indisposée, mais jamais je ne vous vis plus fraîche et plus belle. » L'arrivée de Madame Selwyn me dispensa d'une réponse. Elle connaît Sir Clément et, à en juger par l'accueil qu'elle lui fit, il est fort dans ses bonnes grâces. « Savez-vous bien, Miss, me dit-elle, que vous êtes en danger à Bristol ? Les femmes y sont en guerre ouverte avec vous. Toute l'assemblée est en rumeur, et c'est vous, malgré votre air d'innocence, qui causez ces troubles. Soyez sur vos gardes, si vous voulez m'en croire. »« Et de quoi s'agit-il, madame ? » ?»« Il y court des couplets qu'on a lus publiquement en ma présence. Les beautés de Bristol y sont nommées, et c'est vous qui êtes la Vénus à qui on adjuge le prix. « Et n'avez-vous point vu ces couplets ?» interrompit Sir Clément. « En vérité, monsieur, je ne savais pas seulement qu'ils existassent. » Madame Selwyn, « N'allez pas du moins m'en attribuer l'invention. C'est un honneur que je ne mérite point. » Sir Clément, « J'ai copié dans mes tablettes les quatrains où l'on parle de Misanville et j'aurai l'honneur de les lui présenter dès ce soir. Madame Selwyn, et pourquoi cette prédilection pour les quatrains où il est question de Misanville? La connaissiez-vous déjà? Sœur Clément, oui, madame, j'ai eu l'honneur de la voir souvent dans la maison du capitaine Mirvan. Que trop souvent, ajouta-t-il tout bas. Et madame Selwyn s'étant détournée pour faire des emplettes, il poursuivit. J'ai mille choses à vous dire. M'est-il permis de savoir où vous logez? Chez madame Selwyn. Est-il possible? Le hasard me sert donc une fois. Et depuis quand y êtes-vous? Depuis 3 semaines environ. Que de peine j'ai eue à vous retrouver depuis votre retraite précipitée de Londres. Cette virago de Duval m'a absolument refusé toute nouvelle. Ah, Misanville, si vous saviez combien j'ai souffert, combien de nuits j'ai passé dans des insomnies, si vous connaissiez cette malheureuse incertitude dont j'ai été tourmentée sans cesse. Non, vous ne pourriez jamais, malgré toute votre rigueur, me recevoir avec cette indifférence glacée. Moi, que je vous reçusse autrement, monsieur, et à quel titre? Et n'est-ce pas pour vous seul que j'arrive ici? Mon voyage pouvait-il avoir d'autre but que le bonheur de vous revoir? Que sais-je, monsieur? Il y a tant de gens qui font le voyage de Bristol. Cruel, comme si vous ignoriez que je vous adore, que vous êtes l'amante souveraine de mon cœur, l'arbitre de ma destinée. Madame Selwyn étant revenue alors vers nous, sœur Clément reprit son air dégagé et lui demanda s'il aurait l'honneur de la voir à l'assemblée. « Oui, sans doute, lui répondit-elle, nous y serons, et il ne tient qu'à vous de nous y apporter les couplets si Misanville peut patienter aussi longtemps. » Il me pria alors de l'accepter pour moitié. Je le remerciai en lui disant que je ne comptais pas de sortir. « Comment ? » s'écria madame Selwyn. « Vous n'irez point à l'assemblée ? Peut-être avez-vous aussi des lettres à écrire ?»« Non, madame, pas une seule. »« Et pourquoi donc voulez-vous garder la maison ? Est-ce pour aider ou pour embarrasser ceux qui y restent ?»« Ce n'est pas ce que je cherche, et si vous le trouvez bon, madame, je n'y resterai pas. »« Je me flatte donc d'obtenir l'honneur de danser avec vous, » répéta sœur Clément. Je fis une légère inclination de tête. La crainte des plaisanteries de madame Selwyn lui épargna un refus. Nous retournâmes bientôt chez nous, accompagnés de sœur Clément. Sa conversation avec madame Selwyn était réellement amusante, mais je n'avais guère d'humeur à me divertir. Dans toutes les circonstances, j'ai le malheur de paraître aux yeux de Mylord Orville comme une étourdie, comme une capricieuse, sans principes et sans fermeté. Je l'évite à la vérité autant que je puis, je fais de mon mieux pour lui cacher mes faiblesses. Mais encore, je ne saurais souffrir qu'il prenne une mauvaise opinion de moi. Il ignore les raisons qui m'ont décidé à m'engager pour l'assemblée. Ainsi, il doit être surpris de ces variations éternelles. Mylord Orville fut la première personne que nous vîmes dans le jardin. Il ne parut guère content de se rencontrer avec sœur Clément, et j'observai qu'ils changèrent tous deux de visage. Nous retrouvâmes dans la salle la même compagnie que nous y avions laissée le matin. Madame Selwyn présenta sœur Clément à madame Beaumont. Ils connaissaient déjà Lady Louise et Mylord Merton. La conversation roula sur des lieux communs. Le beau temps, les étrangers des eaux, les nouvelles du jour occupèrent tous les esprits. Sœur Clément seule affecta de me parler en particulier. Quelle différence entre Mylord Orville et lui! L'un se distingue par la douceur de ses manières, par la délicatesse de sa conduite, par un air respectueux qui, au milieu des propos les plus flatteurs, me laisse toujours à mon aise. L'autre me surcharge d'une politesse outrée. Ses attentions trop marquées deviennent embarrassantes et il y attache un air d'importance qui n'échappe à personne. On dirait que cette publicité lui plaît, car il prend soin d'écarter tous ceux qui seraient tentés de me parler. Lorsqu'il fut parti, Mylord Orville s'approcha avec un sourire malin. Misanville me permet-elle d'usurper la place de sœur Clément? Dois-je penser? Une visite aussi indifférente ne vaut pas la peine, Mylord, que vous y pensiez du tout. Pardonnez, madame, rien de ce qui vous concerne ne m'est indifférent. » Il ne me dit plus rien jusqu'à ce que les dames se fussent retirées pour faire leur toilette. Alors il me pria de lui accorder un moment d'entretien. « Je tremble, madame, d'avoir eu le malheur de vous déplaire. Je serais au désespoir d'avoir un tel reproche à me faire. Si je l'ai mérité, soyez sûre du moins que c'est involontairement. » « Non, mylord, vous êtes sans contredit à l'abri de tout reproche. » « Vous soupirez en me prenant la main. Puissais-je du moins partager vos chagrins, quelle qu'en soit la source? Avec quel empressement je m'appliquerais à les soulager? Confiez-les-moi, chère Miss Anville. Souvenez-vous que vous êtes ma sœur d'adoption. Dites-moi, je vous supplie, mon aimable amie, si je suis en état de vous rendre service. » « Non, mylord, je vous remercie. Non, mylord, je vous remercie. Quoi? Je ne puis donc vous être bon à rien? Peut-être souhaiteriez-vous revoir M. Macarnay ? » Je lui répondis encore par un non. « À vous dire vrai, ce n'est pas là proprement ce qui m'inquiète. J'ai un doute essentiel, mais il m'en coûte de vous en parler, car il n'est pas impossible que mes conjectures ne vous fassent de la peine. » « Vous êtes pressé pour le moment, je ne veux point vous retenir. Peut-être aujourd'hui aurai-je l'occasion de m'expliquer plus clairement. Seulement, souffrez que je me permette une question. Saviez-vous ce matin, en allant à Bristol, qui vous y rencontreriez ?»« Moi, mylord. » »« Pardon, mille pardons de ma curiosité indiscrète. Laissons là ma question et n'en parlons plus. » En effet, je sortis et je me hâtai de gagner ma chambre. C'est ce Sir Willoughby qui lui fait ombrage. Il m'eût été aisé de détruire les soupçons du Lord. Mais je me suis imposé la loi, une fois pour toutes, de l'éviter, de le fuir autant que possible. J'aurais désiré cependant de lui annoncer l'engagement que j'avais pris pour l'Assemblée, puisqu'il semblait compter sur moi ce soir. Je ne descendis qu'à l'heure du dîner, après que tout le monde fut déjà assemblé. Orville fut étonné de me voir parer, et moi-même j'en étais honteuse. « N'ai-je pas compris, demanda Madame Beaumont, que Miss Anville ne sortirait pas aujourd'hui ?»« Oui, madame, répondit Madame Selwyn, c'était son plan ce matin. Mais il y a dans cette assemblée une espèce de pouvoir magique auquel on ne résiste pas. » Lord Orville ne put s'empêcher de témoigner sa surprise. On se mit à table. Il m'en coûta d'abandonner mon ancienne place à côté du Lord. Les efforts que je fis pour l'éviter le déconcertèrent visiblement. Cependant, j'ai tenu ferme et je suis demeurée fidèle à la promesse que je vous ai donnée dans ma lettre d'hier. Après le dîner, nous passâmes tous dans la salle à visite et il me fut impossible d'échapper à mylord Orville. « Vous allez donc tout de bon, me dit-il, à l'Assemblée, et danserez-vous aussi ?» « Je l'ignore, mylord. Si je ne craignais que vous ne fussiez ennuyé d'avoir deux fois de suite le même cavalier, j'aurais l'honneur de vous demander votre main. Les lettres que j'ai à écrire peuvent être remises jusqu'à demain. » « Si je dois danser nécessairement, je suis déjà à moitié engagé. » « Et avec qui, si j'ose le savoir ?»« Avec Sir Clément Willoughby. » Ce nom lui ferma la bouche. Il parut mécontent et ne me parla plus de toute l'après-dînée. « Ah, monsieur, je n'étais pas non plus dans une assiette bien agréable. » Sir Clément ne manqua pas d'arriver de très bonne heure pour nous conduire à l'Assemblée et d'abord, en entrant, il renouvela ses importunités. Il s'assit à côté de moi et ne cessa de m'accabler de ses fadeurs. Mylord Orville ne desserra point les dents. Il me fixa d'un air sérieux et pensif et il baissa les yeux aussi souvent que je tournais les miens sur lui. Sir Clément sortit de sa poche un papier plié qu'il me présenta en ajoutant d'une voix basse « Voici, aimable Miss Anville, un faible portrait de celle que j'adore. Vous trouverez ces couplets bien au-dessous du sujet, mais tels qu'ils sont, je porte encore envie à l'heureux mortel qui a osé risquer cet essai. » « Nous verrons cela, lui répondis-je, une autre fois. » Je craignais que mylord Orville ne s'aperçût que j'acceptais de Sir Clément un écrit offert aussi mystérieusement. Mais ce Sir Clément est un homme dont on ne vient pas aisément à bout, et il suffit qu'il se soit mis un projet en tête pour qu'on ne réussisse point à lui faire lâcher prise. « Non, continua-t-il, serrez ce papier au plus vite, pendant que Lady Louise n'y est point. » Elle était sortie avec Madame Selwyn. « Et surtout, prenez soin qu'il lui reste caché. » Je l'assurai que mon intention n'était pas de lui montrer les couplets. « Vous ne sauriez donc mieux faire, madame, que de les accepter tout de suite. J'aimerais bien aller lire haut, mais vous trouverez qu'ils doivent n'être connus ici que de vous et de Madame Selwyn. » Voyons donc que mes refus seraient inutiles, je reçus les couplets. Un papier présenté avec un certain mystère, notre entretien soutenu, pour ainsi dire à l'oreille, fournissait matière et des remarques. Sœur Clément me pressa de parcourir les quatrains, et il ajouta qu'il n'avait pas osé les produire publiquement, par la raison que Lady Louise n'y était pas des mieux traitée. Cette circonstance m'embarrasse, et je m'expose à des ressentiments de la part de cette dame, si jamais ces couplets parviennent jusqu'à elle. Je vous en remets ci-joint une copie, mon cher. C'est un panégyrique outré de mes prétendues perfections, et il y aurait de la vanité à faire parade d'éloges que je ne dois pas mériter. Je n'avais pas encore eu le temps de serrer ce beau morceau de poésie quand les dames revinrent. Madame Selwyn eut la curiosité de me demander ce que je tenais là. Je lui dis que ce n'était rien, et j'empochai au plus vite mon papier. « Rien, reprit-elle, et en rien peut vous faire rougir ?» Je ne sus que répondre. Un soupir échappé à Mylord Orville produisit sur moi une impression que je n'ai pas le courage de vous dépeindre. Mylord Merton présenta la main à Lady Louise et ils montèrent en voiture avec Madame Beaumont. Madame Selwyn se servit de l'équipage de Sir Clément et il m'y fallut prendre place aussi. Je ne parlais point en chemin. Mais nous ne fûmes pas plus tôt arrivés à l'assemblée que Sir Clément sut me faire rompre mon silence. Il me demanda d'abord à danser. Je m'en excusai en le priant de chercher une autre moitié. Il s'en défendit, protestant qu'il était très aise de pouvoir rester tranquille avec moi, puisqu'également il avait mille choses à me dire. Là-dessus, il se mit à me conter tout ce qu'il prétendait avoir souffert de mon absence, ses alarmes après mon départ de Londres, les difficultés inouïes qu'il avait eues à me découvrir, avantages qu'il n'avait pu se procurer qu'en sacrifiant encore une semaine au capitaine Mirvan. Howard Grove, continua-t-il, qui m'avait paru un paradis terrestre, n'était plus qu'un séjour lugubre. Ses environs n'étaient plus les mêmes. Les promenades que j'avais trouvées si délicieuses ne m'offraient plus le moindre attrait. Lady Howard, que j'avais prise pour une respectable vieille d'une humeur agréable, rentrait à présent dans la classe ordinaire des femmes de son âge. Madame Mirvan, qui ci-devant me semblait être un meuble de campagne assez supportable, me devenait maintenant si insipide qu'à peine pouvais-je m'empêcher de dormir dans sa société. Et sa fille aussi, que j'avais crue assez gentille et d'une bonne patte, ne fut plus capable de m'inspirer le moindre intérêt. Enfin, le capitaine, que j'avais toujours regardé comme un rustre, n'était plus à mes yeux qu'un sauvage. « Eh, monsieur, m'écriai-je, dans quels termes parlez-vous de mes meilleurs amis ?»« Pardon, madame, mais le contraste de ces deux visites était trop frappant. » Il me demanda ensuite ce que je pensais de l'auteur des couplets. « C'est quelqu'un, lui dis-je, qui a envie de se jouer de moi, ou qui lui-même n'est pas dans son bon sens. » Là-dessus, il me fit force compliments, auxquels je ne crus échapper qu'en lui proposant une danse. J'espérais, reprit-il, que l'auteur se trahirait par ses yeux. Mais cet indice n'est pas sûr avec vous, madame, puisque vous attirez également tous les regards. Sans contredit, vous serez en état de deviner l'auteur des couplets. Je lui répliquai que je n'en savais rien du tout. Entre nous, cependant, mon cher monsieur, mes soupçons tombent sur monsieur McCartney. Il n'y a que lui qui soit capable de parler de moi avec tant de prévention. D'ailleurs, je crois avoir reconnu la tournure de ses vers. Sir Clément me fit encore un millier de questions au sujet de Mylord Orville. Depuis quand il était à Bristol? Depuis quand je demeurais à Clifton? Si le Lord sortait le matin en cabriolet? Si j'avais jamais eu le courage de me promener dans ces sortes de voitures? Cet interrogatoire fut poussé avec la hardiesse et l'indiscrétion qui sont propres à Sir Clément. J'étais déjà ennuyé du bal et j'attendais avec impatience le moment où je pourrais me retirer. Heureusement, Lady Louise prévint mon désir. Elle se pique de quitter les assemblées la première, et nous partîmes d'assez bonne heure. Mylord Orville nous reçut avec un sérieux glacé. Pas une seule de ces distinctions flatteuses dont je me suis tant loué. Pas la moindre marque d'une simple politesse. Lady Louise elle-même n'aurait pu me faire un accueil plus froid. Sir Clément, qui resta à souper, se plaça à côté de moi, sans que Mylord Orville cherchât à l'en détourner. Jusqu'ici, cependant, il avait toujours ambitionné d'être mon voisin à table. Cette petite circonstance m'affecta beaucoup. J'ai tâché cependant d'en être bien aise. L'oubli et l'indifférence, voilà ce que je dois demander pour me réconcilier avec moi-même. Mais hélas, déchoir de la sorte dans son estime, perdre tout d'un coup son amitié, cette idée me perçait le cœur. Je ne sus quelle contenance garder, et malgré tous mes efforts, je ne pus retenir quelques larmes qui se glissèrent le long de mes joues. Lord Orville ne s'en aperçut pas, et je réussis à me remettre assez pour tenir ferme jusqu'à la fin du repas. Dès que Sir Clément fut parti, je me retirai, sans oser risquer de rencontrer les yeux d'Orville. J'ai passé la nuit à vous écrire. J'étais trop sûre de ne pas dormir pour penser à me coucher. Dites-moi, mon cher monsieur, s'il est possible que vous approuvez ma conduite, que vous autorisez mon changement, que j'ai raison de fuir Mylord Orville et d'éviter ses égards. Dites-le-moi, je vous en prie, et je me consolerai d'un tel sacrifice au milieu de mes regrets. Car je ne le déguise point, jamais je ne cesserai de regretter son amitié. Je l'ai perdue, je l'ai foulée aux pieds. N'importe, ces liaisons honorables n'étaient pas faites pour moi et m'exposaient à des dangers inévitables. D'après les conseils que vous m'avez donnés, monsieur, je ne pense plus qu'à me gouverner avec toute la sagesse possible. J'ai à combattre la faiblesse de mon cœur et les afflictions auxquelles je suis souvent en proie. Mais j'espère de les vaincre. Si je succombe, je ne serai du moins pas coupable par ma faute. Le désir de bien faire contient en moi toute autre passion, en tant qu'elle pourrait influer sur ma conduite. Et ne le dois-je pas, moi qui suis votre fille, formée par vos soins ? Oh, mon père et mon ami, je dois l'avouer, mes sentiments sont en opposition avec mon devoir. Et tandis que je fais des efforts pour me réconcilier avec moi-même, j'éprouve de plus en plus que mon repos, mes espérances, mon bonheur sont évanouis. Vous seul, monsieur, pouvez calmer mon esprit agité. Vous ne refuserez point votre compassion à des faiblesses qui vous sont étrangères, et ne sais-je pas qu'en désapprouvant l'affliction, vous vous plaisez à consoler l'affligé ?